Bonjour et bienvenue au balado officiel du Festival Regard. Je m'appelle Nicky Lamontagne, responsable des projets spéciaux au Festival, membre du comité de sélection et animateur de cette série de balados. Cette année, on vous propose 6 rencontres entre cinéastes qui viendront discuter de cinéma, de courts-métrages et des enjeux de société qu'elles explorent à travers leurs œuvres. On remercie Balado Boréal pour toute l'aide fournie dans l'élaboration et la réalisation de ce projet, ainsi que le Bureau du cinéma de Saguenay pour son soutien. Je vous souhaite une bonne écoute. On reçoit aujourd'hui au balado Amélie Hardy, réalisatrice du film Notes sur la mémoire et l'oubli, ton troisième court-métrage qui a été présenté déjà dans plus d'une dizaine de festivals. Bonjour!
Salut! Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. On reçoit aussi Olivier Labonté-Lemoine, scénariste et réalisateur du film Nu, aussi présenté dans une dizaine de festivals à travers le monde jusqu'ici. Il s'agit de ton quatrième court-métrage, je crois.
Oui, ça va bien? Dire, ouais. Salut!
Salut! Quatrième professionnel, peut-être. D'abord, j'aimerais profiter du fait que c'était la projection hier au Festival Regard pour vous demander comment ça s'est passé. Vous en avez eu d'autres dans d'autres festivals, mais comment s'est passée la projection d'hier?
Super bien. Vraiment ouais. Le meilleur public que j'aurais pu demander. Moi, ça réagissait beaucoup. C'était très éveillé comme public. C'était vraiment le fun.
Ouais. Ouais, même chose. Je pense que c'est comme juste incroyable comme sentiment d'avoir une salle comble, mm-hmm. une salle si dense, comble puis si réactive. Tu sais, autant dans les rires là, qui se palpent vraiment facilement que dans des moments d'émotion où tu sais, c'est plus le silence qui est comme révélateur dans ces moments-là. Mais ouais. Tu sens que les gens sont là par amour puis qu'ils veulent juste vraiment donner du love là, au film puis au créateur. Fait que, ouais, c'était une belle... C'était clairement la meilleure projection là, du film à date. Là.
Bon, on ouais. va prendre le compliment, ouais. merci. Avant de plonger dans vos films un peu plus, on retourne à la base. Une question un peu classique, mais j'ai le goût de savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer justement dans le fait de faire du cinéma? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous lancer dans cette aventure-là plus jeune?
Peux-tu commencer?
Je vais y aller instinctivement, là, c'est comme une grosse question, mais je dirais que moi, ça a jamais été... On dirait qu'il y a des cinéastes que c'est comme, ils ont 8 ans, là,
ouais,
puis c'est clair qu'ils veulent réaliser, puis se rendre à Hollywood, puis qu'ils capotent sur tous les films, puis c'est très, très clair et net leur objectif. Moi, ça a jamais été ça. J'ai pas nécessairement un parcours de cinéphile mordu. C'est vraiment avec le temps que tout ça s'est construit. Puis mm-hmm. même encore à l'étape du cégep, je pense que j'étais juste intéressée par les arts en général. Puis même encore, je me dis que dans ma vie, ça pourrait s'exprimer dans une autre forme d'art, peut-être. Mais en même temps, je dis ça, puis je suis comme clairement le médium du cinéma ou de la vidéo, du moins. Mm-hmm. Et comme fondamental. Fait que, tu sais, en même temps, tu prends le recul sur ta vie, puis t'es comme, ah, depuis que je suis petite, j'avais une caméra dans les mains à filmer mes amis, puis à filmer, genre, les fourmis sur le trottoir. Ouais. Fait qu'il y a quand même un désir de captation, puis de documentation qui est là depuis longtemps, tu sais, puis de mettre de la musique là-dessus, puis de, genre, s'émerveiller qu'il y a des fourmis qui passe sur un trottoir avec la musique classique, là, tu sais, fait que c'est le genre de naïveté que tu te dis, ah, finalement, tu sais, c'était pas si candide que ça. Ben, c'est ça. Pas si naïf. En fait, tout est comme un
ça
peu...
Ça pouvait servir à quelque chose.
Ouais, exact.
Ben, moi, je suis un cinéphile fini depuis longtemps. Fait que quand j'étais enfant, je parlais juste de films tout le temps, là. J'étais juste obsédé, puis c'est drôle parce que moi, j'ai un garçon qui a 6 ans, là, puis il parle que de films tout le temps, là. Fait que quand je vois, je me reconnais un peu là-dedans. Puis c'était peut-être sans comprendre ce que je voulais faire avec des films, puis peut-être que j'avais des idées de faire une profession, mais c'est parce que j'avais vraiment aimé un film sur un médecin, puis là, j'étais comme, je voulais être un médecin, tu sais. C'était toujours relié au cinéma, puis quand j'étais au secondaire, j'ai vu Fight Club.
Évidemment.
C'était comme la croisée de... C'était une époque où le clip était immense. Là, il y avait comme vraiment une grosse expression de style. Beaucoup de cinéastes de clips qui passaient au cinéma.
Ouais.
Puis je pense que là, j'ai catché c'était quoi être réalisateur. Puis qu'est-ce que tu pouvais faire? Comment tu pouvais bâtir un univers puis faire un film qui était comme unique à ce monde-là? Ça m'a super parlé. Puis là, après, je suis juste parti en études là-dedans.
Mmh.
Génial. Un peu donc de deux parcours un peu différents, parce qu'il y a un passionné, puis pour toi, Amélie, ça s'est développé un peu plus tard avec le temps. Mais tu l'avais déjà aussi avec tes vidéos de fourmis.
Mais, non, ça va me suivre, ça.
mais Note sur la mémoire et l'oubli, ben, c'est une adaptation d'un essai littéraire, documentaire d'Atelier 10 de Raphaël Germain, qui s'intitulait « Un présent infini ». J'aimerais en apprendre un peu plus sur la genèse de ce projet-là, parce que c'est pas le seul film, je pense, qui sort de ces adaptations-là d'Atelier 10. On avait Tétanos l'année dernière au festival, qui venait aussi de là. Comment est venue l'idée d'adapter ces essais-là en film?
Écoute, là, ça remonte à peut-être il y a 4-5 ans, là, la genèse de tout ça. J'étais abonnée à la revue Nouveau Projet aux éditions Atelier 10, puis c'était... Cette maison d'édition-là sort, je pense, 2-3 fois par année, un court essai sur un thème quelconque. Là. Il aborde vraiment, il ratisse large. Puis c'est des courts essais d'à peu près 100 pages. Tu lis ça en 2-3 heures max, tu sais. Puis, je sais pas, on dirait que c'était tout le temps des lectures, moi, qui venaient me chercher, autant dans ce que ça évoquait visuellement, parce que c'est souvent des réflexions sur, bon, la société dans laquelle on vit, par le prisme d'une thématique, mais il y avait quelque chose de l'ordre de l'essai, de la réflexion, d'une prise de position qui, moi, m'allumait, puis qui me... C'est ça, que je trouvais pertinent. Puis j'ai eu l'idée de faire une... J'ai voulu rassembler, en fait, comme un genre de collectif, de réal, mais collectif, mais au final, on travaillait pas ensemble. C'était vraiment juste de se dire, « Ah, allons chercher une petite bourse. » Pour que chacun, on se la divise, puis qu'on fasse chacun une petite carte blanche d'adaptation d'un essai de votre choix, en fait. Fait que ça date d'une époque où, tu sais, je pense que c'est long d'avoir des subs en cinéma. Fait que là, on dirait que dans ma tête, j'étais comme, ah, moi, je suis capable d'aller chercher, je pense, une bourse du calque, puis de faire ça arriver, puis de la diviser. Fait que, tu sais, comme... avec le recul, on dirait que je trouve ça fou, là, tu sais, sachant comment c'est difficile aussi avoir ne serait-ce que quelques milliers de dollars de financement public, de m'être dit que « Ah, je vais la diviser en quatre, puis la partager avec mes amis. » Mais en même temps, je suis comme contente de pouvoir... qu'il y ait d'autres cinéastes qui aient pu bénéficier de ça, puis si ça a pu stimuler leur imaginaire. Fait que, honnêtement, je donne beaucoup de crédit aux producteurs qui ont vraiment fait une bonne main de maître là, pour faire 4 films en bas de 10 000 $ là, dans le fond, ish, là, à peu près.
C'est qui les autres personnes qui étaient du projet?
Donc, Alexandre Lefebvre pour Tétanos. Il y avait Audrey Nantel pour un film qui s'appelle Tout roule.
OK, oui.
Puis, il y a un film qui est en cours de post-prod, qui est un film d'animation de Rodolphe Saint-Gelais.
OK.
Donc,
cool.
C'est
Mais Tout roule aussi était passé par le festival.
Je pense que oui, c'est ça, l'année dernière. Mais honnêtement, tu sais, un moment donné... Les démarches de chacun des films s'amorcent.
C'est ça.
Je t'avoue que j'ai pas été... c'était vraiment champ libre, puis je prenais des nouvelles des films, puis tant mieux si ça va bien, puis voilà.
Puis toi, pourquoi t'as choisi cet essai-là, Un présent infini?
Parce que justement, je trouvais la thématique tellement reliée au cinéma, l'idée de la mémoire, puis de l'archivage, puis du fait qu'on se filme dans... toutes sortes d'instants de nos vies. Ben, tu sais, on se filme, on se photographie, on écrit des notes. Il y avait quelque chose qui ramenait beaucoup ma démarche dans cette thématique-là. Puis je me disais que, je sais pas, l'essai m'avait fait réfléchir, mais m'avait fait beaucoup sourire. L'écriture de Raphaël Germain aussi est comique, est très visuelle. Fait que, je t'avoue que pour moi, ça a été un projet qui s'est comme financé, tourné, monté, lancé dans l'univers en dedans de même pas un an. Fait que ça a été fait d'une manière vraiment instinctive, pour le fun, avec, tu sais, aucune pression, juste comme un bel exercice, sans trop l'overthink. Ouais. Alors qu'il y a des projets de court-métrage que tu passes 4 ans, 4-5 ans à juste comme revoir ton scénario, revoir ta démarche, re-questionner tout ça.
Ouais.
Puis des fois, ça apporte du bon, mais des fois, ça tue aussi certains instincts.
Ouais.
Fait que moi, j'avais juste envie de comme faire un truc de 6-7 minutes, puis le lancer dans l'univers, puis on verra bien.
Mm-hmm.
Fait qu'à date, on dirait que j'ai juste comme des échos. En fait, ça devient juste comme des cadeaux, en fait,
ouais.
des surprises, d'agréables surprises, là, la réception. Fait que c'est un peu ça, la genèse.
OK, excellent. Dans Notes sur la mémoire et l'oubli, on mentionne un peu le concept de prison panoptique aussi dans ton film, selon lequel on vit dans un système un peu de surveillance omniprésent, mais qu'on voit pas vraiment et tout. Penser à ça, ça nous rend un peu parano, peut-être, comme le personnage de Will hein, dans Nu, qui se sent constamment épié, parce que dans ton film, on suit l'histoire d'un couple qui se rend un peu dans la forêt pour consommer leur amour à l'abri des regards indiscrets, mais c'est pas ça tout à fait qui se passe, parce que justement, ils se sentent constamment regardés. D'où t'es venue l'idée de faire ce film-là?
J'aime vraiment créer commençant dans mon imagination. Puis là, j'ai trouvé l'inspiration juste par rapport à comme une scène, un moment ou quelque chose comme ça. Puis il y a comme un souvenir qui m'est revenu en daydreaming, en brainstorm tout seul, là. Puis c'était une fois, quand j'étais ado, j'étais allé dans une auto avec ma blonde dans le bois, puis c'était comme son idée. Puis là, j'étais comme, OK, ouais, mais il fallait pas qu'on se fasse voir, puis tout.
Mm-hmm.
Puis en plein dans le milieu, je lève la tête, puis il y a trois personnes qui,
c'est vrai?
Qui étaient comme dans le pare-brise en train de nous regarder. On était dans le bois creux. Puis on s'était comme... j'ai cogné en fenêtre, ils se sont sauvés, puis là, on s'est fait pogner par la police en partant, parce qu'on était sur un terrain privé. Là, j'étais là, ah, merde, je suis dans le marre, là, c'est le char à ma mère, là, tout était comme pire en pire. Puis non, la police les cherchait. Fait qu'ils ont laissé partir. Puis après, j'ai comme fait, hey, attends, on était comme tout nu dans le bois, les portes débarrées avec genre trois hommes que la police cherchait. Genre. Ça aurait pu être quelque chose d'autre, là.
Ça aurait pu être genre des tueurs.
Ça aurait pu être l'enfer, ouais, ouais.
Wow.
Fait que c'est comme parti de cette idée-là, de okay. ce souvenir-là, en fait. Puis là, je suis juste un peu parti explorer ailleurs des thèmes de. Tu sais, à cet âge-là, c'était comme un âge de sortir de ma zone de confort en mm-hmm. relation. Puis, tu sais, je pense dans la sexualité, en tout cas, surtout comme moi d'où je viens, comme la banlieue de Rive-Nord, puis de Montréal, puis comme l'époque du secondaire où j'étais, tu sais, on n'en parlait pas. Les gars, il ne fallait pas être comme gêné ou. Tu sais, c'était comme la sexualité, ça, c'était lié à la performance, puis il mm-hmm. y a un côté un peu fier macho que tous les gars dégageaient. Fait que. Moi, j'ai juste comme tout ce côté-là que j'avais, toutes les gènes que j'avais dans ma sexualité, je les cachais, je les gardais pour moi. Puis on dirait que cet événement-là en particulier, croisé avec comment je me sentais à cette époque-là, c'était comme il y avait quelque chose là-dedans. Puis là, j'ai exploré avec ce coming of age sexuel okay. dans l'horreur.
Cool. Puis justement, du côté de la sexualité, tu as travaillé avec des coordonnateurs d'intimité sur
oui.
ton film. On avait justement une table ronde au festival pour en parler avec Intimédia.
Ouais.
Mais comment ça s'est passé avec ça? C'est important pour toi qu'il y ait justement
oui.
cet élément-là sur le plateau.
Roxane Néron, coordonnatrice d'intimité, c'est vraiment intéressant parce que le film, quand je l'ai commencé, je voulais le financer de ma poche, vraiment dans un même instinct de « let's go, je ne veux pas attendre 4 ans, on fait un film comme ça ». Puis c'était un peu ambitieux parce que j'essayais de tourner de nuit, il n'y a pas un technicien qui voulait embarquer. J'avais les comédiens, les autres, ils embarquaient.
Mm-hmm.
Puis ça, c'était comme en 2019. On a remis ça l'année d'après. Puis il y a eu la pandémie, puis j'ai eu la SODEC entre-temps. Fait que
okay.
cette période, puis c'est créateur émergent, c'est comme un programme que tu développes pendant un certain laps de temps pour pouvoir déposer en production. Fait que ça m'a comme donné du temps. La pandémie est passée. De toute façon, j'aurais pas pu tourner le film pendant la pandémie. Puis le mouvement MeToo, il y a eu un plateau en particulier au Québec qui a été décrié dans les médias par rapport à une comédienne qui avait une super mauvaise expérience.
Okay.
Fait que ça a créé le métier. Roxane, ça a été son étincelle. Cet article-là, elle a parti Intimédia.
Mm-hmm.
Puis quand nous autres, on est revenus, qu'on approchait la prod, je sais pas si on avait eu le financement de prod, on était sur le bord, l'article est sorti, Roxane s'est affiché, je la connaissais à distance. Puis là on a fait, OK, mais moi... Genre, j'avais plein de flou par rapport à comment j'allais aborder la sexualité et la nudité dans ouais. mon tournage. C'était une première expérience pour moi. Fait que là, Roxane arrive, le timing était parfait. Puis la SEDEC, en plus, nous ont débloqué des fonds additionnels parce qu'eux autres, ils croyaient vraiment en cette initiative-là. Fait que ça a été la meilleure affaire qui a pu arriver au projet parce que là, on s'est préparé. Tu sais, si je faisais une cascade, là, n'importe quoi, là, juste sauter en bas des marches là, avec un comédien, il y aurait quelqu'un qui coordonnerait la cascade. Là. Mm-hmm. Fait que là, on a pu vraiment tout coordonner, toutes les chorégraphies, puis pas banaliser, mais rendre le travail professionnel, puis dépourvu de sensualité ou de rien. Là, c'était très professionnel. On a pu tout prévoir, puis ça a fait que. Pour un tournage, comme tous les tournages qui ont eu des imprévus, on n'a pas attendu après des chorégraphies en set, puis ça a été plus vite, plus confortable pour tout le monde. Mm-hmm. Je pense que le résultat est meilleur à cause de ça.
Ben oui, puis même en tant que spectateur ou spectatrice, on dirait que ça rassure un peu dans cet environnement-là. Tu fais, bon, il y a un homme qui fait un film avec la sexualité et tout, bon, il s'est-tu payé un trip?
C'est la dernière chose que je voulais.
Exactement, faire. C'est ça. Ouais. Fait qu'en sachant qu'il y avait la coordination d'intimité sur le plateau, et ça nous rassure vraiment en tant qu'auditoire pour faire, bon, ça a été fait dans le respect de tout le monde. Fait que là, on peut vraiment avoir du plaisir à écouter le film.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est quand tu as la chance de le savoir aussi, là,
que ouais, ça a été... c'est ça, c'est vrai.
Tu sais, les coulisses, la démarche de création, c'est pas nécessairement connu du public, puis ça mérite d'être discuté parce qu'il y a tellement de travailleurs de l'ombre comme ça qui méritent d'être mis de l'avant. Puis c'est comme ça aussi qu'il y a des bonnes choses qui se passent ou des choses que tu peux apprécier à l'écran. Puis finalement, l'envers du décor, c'est comme, ça a été vraiment difficile pour plein... de membres de l'équipe aussi. Fait que c'est intéressant d'évoquer, en fait, c'est ça, ces coulisses-là de la création qui paraissent à l'écran quand c'est bien fait, mais des fois aussi, tu sais, comme ça peut être subtil, comment des fois ça se... Ouais, c'est ça. Comment ça peut ne pas se rendre au public, puis... Ouais.
Le parallèle avec la cascade est excellent, en fait, parce qu'on met en scène, on prend le temps pour quelqu'un qui va tomber par terre de
la plus petite
de
s'assurer. Chose qu'on ferait, là, c'est ça. Parce qu'on prendrait pas de risque, puis tout le monde serait... Ben oui, c'est obvious, on fait venir quelqu'un, puis... tu sais, il y a une scène dans mon film, il y a un personnage qui saute sur le toit de la voiture, puis quand on le préparait, on allait le faire en cascade, finalement, on l'a fait en post-production, le saut. Mm-hmm. Mais, tu sais, dans ma tête, c'est tout petit, là, puis c'était comme juste saute un peu, là. Mais non, finalement, non, il y a une trampoline. OK, ben là, c'est parti, on fait une grosse affaire de planifier chorégraphie, mais c'est ça, c'est un no-brainer avec ça, puis là, tout d'un coup, ça commence à être obvious qu'on utilise des coordonnatrices d'intimité, coordonnateurs, mais je pense qu'il y a juste, je sais pas s'il y a des hommes aussi au Québec, mais en tout cas,
je sais pas.
Cordeaux d'intimité, puis là, ça commence à être obvious, mais ça fait 2-3 ans.
C'est
débile qu'on n'ait pas fait ça avant. Mm-hmm.
C'est extrêmement un phénomène récent, mais qui va nous amener ailleurs pour le mieux, ça c'est certain.
Ouais.
Dans tes films, Amélie, tu explores quand même des questions existentielles assez souvent. Train Hopper, La vie heureuse aussi. Qu'est-ce qui t'attire dans ces sujets-là? Visiblement, il y a quelque chose là-dedans qui...
Ben ouais, c'est ça. On dirait que ça a l'air big de le dire comme ça, genre des questions existentielles. Ça reste des courts-métrages, tu sais, fait que je veux pas non plus prétendre... que ça répond à quoi que ce soit. Ou,
non, au contraire, ça pose les questions.
Oui, c'est ça. Puis mon angle, souvent, ou en fait, je commence à en être consciente de plus en plus, c'est qu'il y a quand même une certaine absurdité aussi que je relève ou que j'essaie de faire surgir dans les films. Fait que c'est plus comme de mettre des idées, tu sais, d'associer certaines idées avec des questions qui sont plus larges pour dégager un nouveau sens. Fait que oui, mais c'est vrai que ça... C'est vrai qu'avec le temps, on dirait qu'il y a quand même une continuité à ce niveau-là. Mais tu sais, je pense que clairement, genre, comme là, je vais avoir 30 ans dans quelques semaines, puis clairement, la dernière décennie... C'est entre 20 et 30 ans, je cherchais beaucoup ma place, c'est qui je suis vraiment, qui je veux être, c'est quoi. Ouais, c'est ça, beaucoup de questionnements identitaires dans le fond, fait que je pense que ça se reflète dans cette façon-là d'aborder mes films. Ouais.
Ben c'est la décennie, on dirait, dans laquelle on se questionne beaucoup entre 20 et 30 ans.
Ouais, puis je suis sûre que ça continue jusqu'à la mort. J'ai pas l'impression que, que c'est fini. Non, mais clairement, on apprend à se connaître puis à être plus groundé dans on est, mais ouais.
On se pose plus ces questions-là à ce moment-là.
Mais moi, j'étais venu ici l'année passée, puis j'avais vu ton film La vie heureuse. J'étais, en fait, la première fois que j'avais entendu ton nom, c'était les enfants qui avaient affiché que tu étais rendu avec les enfants. En publicité. Oui. Fait que je te connaissais pas du tout comme cinéaste. Puis là, j'avais. J'associais ça à la pub. Puis là, après, je suis allé voir ton film. Puis c'était zéro ce que je m'attendais. Parce que souvent, les cinéastes de pub sont plus proches de la fiction. Puis là, tu avais un essai documentaire.
Oui.
Puis j'étais vraiment surpris sur la démarche. Est-ce que. Puis je pense que j'ai pas vu ton premier film, Train Hopper, mais est-ce que c'est une démarche que. Qui s'approche de la littérature? Est-ce que c'est quelque chose... d'où ça vient, cette façon de raconter? Est-ce que tu es capable de consciemment le dire?
Ben, oui, c'est ça. Je me trouve tout le temps dans des fossés de genre. Là, t'sais, on dirait qu'on veut beaucoup étiqueter si c'est fiction, si c'est du documentaire, mm-hmm. si c'est de l'animation. Moi, je me trouve souvent être dans des cracks, puis je suis comme, hey, on dirait que ça pourrait correspondre à tous ces genres-là. Mm-hmm. Puis de plus en plus, là, il y a des films qui s'inscrivent dans ça, puis tu regardes à l'international, il y en a plein, là, en pratique documentaire, c'est...
L'hybridité est de plus en plus...
Vraiment, exact. Je dirais que peut-être, tu sais, j'ai un background de montage, fait que je pense que l'espèce de langage d'association, d'idées, de collage, puis tout ça, clairement, ça fait partie de mon langage, fait que je pense que ça reste avec moi. Mais c'est ça, on dirait que pour moi, il y a comme quand même dans le cinéma documentaire, en fait, ce qui me fait triper, c'est des histoires, des vraies histoires. Tu sais, la réalité des choses, mais ou une perception de la réalité, mm-hmm. ou une documentation de certains microcosmes ou phénomènes. Mais en même temps, vu que c'est du cinéma, on dirait que pour moi, il faut que ça reste un peu spectaculaire comme... au sens où il faut que ça soit un spectacle, où il y a comme une certaine notion de divertissement ou d'utiliser les codes pour sortir d'un langage trop classique. Mais après ça, je te dis ça, puis c'est full pas conscient, tu sais. Là, je pense que de plus en plus, je suis amenée à y réfléchir, puis à le...
rationaliser.
Oui, c'est ça. Fait que, mais d'abord et avant tout, je pense que mon instinct, mon regard, c'est... Il est comme un petit peu champ gauche sur la réalité. Mm-hmm. C'est mon matériau de base. Puis après, c'est comme, OK, mais comment... Ouais, comment le magnifier ou rendre ça drôle ou rendre ça dramatique. Mm-hmm. Ouais, c'est ça.
C'est super réfléchissant, en tout cas.
Ben, merci. Je le prends, ça me fait vraiment plaisir. J'ai beaucoup apprécié ton film aussi. Puis on dirait que j'ai hâte qu'on rentre dans le cœur du sujet de ton film parce que j'ai comme plein de questions.
Ouais,
aussi.
Ben vas-y.
J'aimerais ça t'entendre, en fait, sur... juste comme une question vraiment fondamentale. Pour toi, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de cette idée-là? Comme, est-ce que c'est par rapport... En fait, ton film a vraiment suscité des questionnements à savoir... Tu sais, je me disais, ah, est-ce que c'est comme un film sur la pudeur? Est-ce que c'est un film sur l'aisance avec son propre corps ou l'aisance avec le corps des autres. Puis probablement que c'est comme plein d'affaires, mais j'ai envie de t'entendre sur qu'est-ce que tu voulais qu'on capte réellement par rapport à cette thématique-là de la nudité puis de la sexualité. Puis...
Ben oui, un peu de tout ça.
Ouais.
ben tu sais, moi, ce que je trouve le fun du format court, puis... Là, je développe un long, puis je vais l'aborder différemment. C'est que je trouve vraiment qu'on peut être audacieux puis oser faire quelque chose que, quitte à perdre ton public, puis c'est 15 minutes, tu sais, 10 minutes, tu sais, c'est pas grave. Le risque, il est petit. Après, avec un long métrage, tu pourras pas... Mais tu faut que tu sois audacieux et tout ça, mais je trouve que narrativement, c'est pas la même chose. Il y a comme un contrat avec le public de rentrer et s'asseoir. Fait que je pense qu'il y avait comme... Je me suis permis beaucoup de liberté par rapport à... vouloir faire de l'horreur aussi, puis tu sais, vraiment aller là-dedans. Puis tu sais, moi, j'aime beaucoup l'horreur psychologique, j'aime beaucoup l'horreur qui va prendre qui va utiliser la peur pour raconter quelque chose d'universel, puis rentrer dans un thème, puis peut-être un thème qui n'est même pas d'horreur, tu sais, Hereditary, que je trouve tellement le fun, qui est un film de deuil, tu sais. C'est, ouais. Fait que c'est vraiment... Mais il y a des histoires de sorcières, tu sais, c'est vraiment une autre affaire. Moi, c'est ce qui me parle le plus, c'est ce que j'aime faire, puis avec le film, oui, la sexualité, oui, la pudeur, oui, la mise à nu, puis je pense que j'ai tu sais, je disais que je partais d'une place de souvenirs, puis moi, j'étais comme assez jeune, je pense que j'étais un peu plus dick à cet âge-là, tu sais, comme versus, comme mon coming of age d'aisance sexuelle était comme plus lent que, mettons, la blonde que j'avais à l'époque, qui était comme plus à l'aise, fait que l'idée d'aller, genre, let's go, on va dans une voiture, j'étais comme, oh shit, ça me déstabilise, je sors de la chambre à coucher, puis tout, fait que moi, il y avait ça que je trouvais vraiment le fun à parler, mais après ça, je voulais pas en faire un gros discours, puis que ça soit... Tu sais, je voulais que... Mais la notion de spectacle aussi, parce qu'hier, c'était... Le monde riait beaucoup, puis c'était vraiment fun, tu sais. Il y a du monde à qui j'ai parlé qui l'avait vu dans d'autres contextes, puis tu sais, il y avait Steve Laplante, là, que j'ai vu après, puis lui, il disait, moi, j'ai zéro ri, là, j'avais peur quand je l'écoutais, puis j'étais tout seul, puis j'étais comme, ben oui, mais c'est ça aussi, puis c'est parfait, parce que le rire, ça veut dire qu'ils sont nerveux, sont déstabilisés.
Mal à l'aise,
ça dire, ouais, c'est ça, c'est un mécanisme de défense, mais en même temps, ça veut dire qu'il y aura du fun, puis ça, je trouve ça super cool. Fait qu'il y a ce côté-là aussi. Mais tu sais, j'ai plus de recul sur mon film après. Il y a ce côté-là aussi que c'est venu tellement d'une place organique. C'est venu de mes tripes. Puis j'ai beaucoup rationalisé parce que je faisais des dépôts SEDEC. Fait que tu sais, il faut que tu expliques un peu ta démarche. Puis j'y ai pensé. Mais en même temps, je voulais pas trop le rationaliser. Puis je voulais que ça soit aussi instinctif, comme tu disais tantôt. Je trouve que c'est tellement dur d'être instinctif dans ce médium-là. Tu sais, des fois, je voudrais être un musicien parce que tu pourrais juste prendre des instruments puis aller jouer. Puis tu pourrais faire ton art là, de même. Puis le cinéma, c'est comme ça prend de la méthode puis de l'organisation. Fait que,
clairement.
C'est frustrant des fois. Fait que, ouais. Je sais pas, ça répond à la
ben
question.
Ben oui, vraiment. Non, je suis fascinée. Je pourrais en prendre bien plus.
Ben oui, c'est le fun aussi d'avoir le point de vue comme... Je suis pas trop un petit renouveau dans les voix masculines aussi, parce qu'on présente justement le cliché de l'homme qui...
Un héros.
C'est ça, le héros, puis qui a aucun tabou avec la sexualité et tout, super libre, mais c'est pas ça, puis c'est pas comme ça qu'on le vit nécessairement à l'adolescence, même si on se fait étiqueter comme ça, comme tu l'as si bien mentionné aussi. Fait que de le montrer aussi de cette façon-là, puis... C'est super intéressant de pousser ça aussi.
Mais c'est charmant, la vulnérabilité, tu sais. Puis Étienne Gallois, il était tellement bon là-dedans pour l'exprimer. Puis il a compris, il l'a vécu. Puis lui, en plus, quand il tournait le film, c'est la première fois qu'il faisait de la nudité. Puis il arrivait dans un parcours de jeunesse aussi. Il faisait beaucoup de projets jeunesse ou de films, pas jeunesse, mais où il jouait le jeune, tu sais, un peu... pogné, pris dans puberté ou quelque chose comme ça. Fait que là, c'était comme un gros... un exutoire pour lui, puis essayer quelque chose. Fait que ouais, moi, je pense... C'est une image de l'homme que je trouvais... Je sais pas si je l'avais consciemment, mais je voulais raconter ça. On le voit pas, en fait. C'est le fun. Mm-hmm.
Est-ce que t'es comédien pendant des diffusions? Tu sais, c'est quand même... je sais pas si c'est challengeant pour eux ou est-ce qu'ils assument pleinement leur... ben leur prise de position, puis le fait, tu sais, d'être complètement intégral dans leur authenticité envers la démarche. Puis quand il y a des... En fait, c'est ça, je me demande juste dans les projections, comment ils se sentent, comment ils reçoivent toute cette énergie-là du public. Est-ce qu'ils se sentent bien accueillis, bien reçus, ou il y a tout le temps une fébrilité parce que c'est tellement vulnérabilisant, justement, la nudité, on n'est pas habitué, là. Il y a comme quelque chose de tabou ou de très... sacré, là, autour de ça.
Oui. Mais je pense que... Là, je vais pas parler pour eux, mais je pense qu'on a tous fait un chemin avec le film. Il est encore jeune dans sa sortie, mais il a joué un peu en Europe, il a joué un peu ailleurs. Puis il y a eu une couple de prix à prendre sa cour, puis tout ça. On dirait qu'il y a eu beaucoup de love, là. Fait que ça nous a tous mis à une place que je pense que... En tout cas, moi, personnellement, mes choix, là, je suis bien avec. Puis après, si j'ai une projection qui est dans le silence, ça sera ça. Puis, tu sais, ça sera pas grave. On dirait que je sens que le film a trouvé un certain public, puis c'est ça que je voulais. Fait que je pense que les autres aussi, c'est un peu ça. Ils sentent que le film a été fait pour une bonne raison, puis que le monde l'ont vu pour ce qu'il était aussi, puis qu'il n'y avait pas une exploitation de leur nudité. Étienne, par exemple, il l'avait jamais vu avant hier.
Okay.
Fait que lui, il est arrivé à Regard, il a vu le film, la programmation d'ouverture, puis il avait vu le film de Florence qui avait de la nudité.
Ouais.
Puis je pense que lui, il a quand même catché. Il a vu sur grand écran, il a dit « Ah, oh, c'est vraiment grand. C'est un grand écran dans un public. » Fait que je pense qu'il y a eu une couple de jours qu'il l'appréhendait.
Ouais.
Mais après, il m'a dit qu'il était super content. Puis Roxane, elle l'avait vu quand même une couple de fois. On a fait un visionnement d'équipe tout. Fait que je pense qu'elle aussi... On est comme rendu en paix avec le processus.
Ouais, ouais,
c'est drôle à dire, mais...
Oui, puis comme tu disais tantôt, tu sais, c'est professionnel dans le sens où c'est ça leur métier aussi. Là, ouais. Le fait qu'ils aient accepté de s'impliquer là-dedans, je veux dire... C'est ça, c'est des professionnels, puis ça les rend pas moins vulnérables pour autant, mais il y a quelque chose de l'ordre, je sais pas, moins d'un métier là-dedans aussi, d'apprendre à même dialoguer avec le public, puis se présenter à, tu sais, carrément à nu, là, devant... Ouais, fait que non, c'est clair, mais c'est une... J'aurais aimé ça, on dirait, jaser avec Étienne, puis ton actrice Roxane, je crois.
Roxane, ouais, c'est Roxane ça. Tremblay.
Hier, pour voir comment... Ouais, c'est ça, ouais.
Mais la réception du public est là parce que c'est bien fait aussi. Puis c'est, tu sais, vous parlez de différentes réceptions aussi que le public peut avoir selon comment il l'interprète. Comme il y a des gens qui ont ri parce qu'ils voyaient plus comme une comédie, plus comme un film de genre, puis... T'sais, je réalise que dans les deux cas, vous avez des films qui décloisonnent justement un peu les genres, entre guillemets, dans lesquels ils sont placés.
Mm-hmm.
Parce que, Olivier, quand j'avais écouté ton film, je l'avais pas nécessairement vu comme... Ben, évidemment, il y a des codes de l'horreur, du suspense et tout, mais moi, je l'avais pas interprété comme ça. Mais tout le monde me disait « Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Puis j'étais comme « Pas nécessairement. » Puis tu sais, toi aussi, on parlait tantôt aussi avec le documentaire que c'est vrai qu'il y a une forme hybride parce que t'as des scènes de fiction, tu mets en scène des trucs, tu prends des trucs sur Internet, c'est des collages et tout. J'imagine qu'il y a beaucoup de recherches qui viennent là-dedans.
Ben honnêtement, moi, quelqu'un pourrait me dire que ce film-là, c'est de la fiction, puis il y aurait vraiment raison dans le sens où tout est mis en scène, à part quelques séquences documentaires plus classiques où on est allé sur la rue prendre des shots. La raison pour laquelle moi, je l'ai étiqueté documentaire, c'est que c'est une réflexion sur la réalité des choses.
Ouais.
C'est un point de vue sur notre quotidien, notre société. Fait que pour moi, il y avait quelque chose de documentaire, mais en même temps, est-ce que de la fiction, c'est pas un point de vue sur la réalité des choses?
Oui, c'est comme,
qu'est-ce qui est quoi? Mais moi, je trouve que c'est fascinant comme question, tu sais.
Oui, vraiment.
C'est ça, puis de plus en plus, tu regardes, c'est ça, certains festivals à l'international qui... je pense que c'était-tu Berlin ou en tout cas, où il n'y a plus de catégorie de genre, là?
Ouais.
Pas juste féminin et masculin, là, fiction documentaire, c'est juste comme compétition 1, 2, 3, 4, 5, puis il n'y a pas... Ils viennent plus libelliser, étiqueter les films par genre, fait que... Moi, c'est clair que ça me parle, puis après ça... Tout existe, tout peut exister, là, de la fiction pure, du documentaire pur.
Ouais.
Tu sais, comme, ouais, c'est ça.
Ben, c'est intéressant. Ah, ben,
ça touchait. Tu parlais d'images, puis c'est sûr que comment quand je regardais tes deux films quand je les ai vus, je me questionnais tout le temps qu'est-ce que t'as tourné, qu'est-ce que t'as pris, qu'est-ce que.
Ouais.
Est-ce que. T'as pas un pourcentage, là, mais grosso modo, t'as comme beaucoup tourné ce qu'est le contenu? Est-ce que t'as beaucoup pris? J'imagine la femme qui faisait du hula hoop, ça c'était.
Ah oui, c'est complètement des archives de YouTube, là, ça. Dans le note sur la mémoire, je te dirais que peut-être 50% du matériel est tourné. Puis 50% c'est des archives qui proviennent de différentes sources, là, que ce soit de la banque d'archives ou du vidéo YouTube puis tout ça. Puis dans La vie heureuse, parce que tu l'évoques, ça c'était comme peut-être à 80% tourné, puis c'était plus comme des parenthèses
quand même,
De TikTok ou de genre de l'archivage moderne, là, mettons, c'est pas. C'est comme j'appelle, là, c'est comme.
Ouais.
C'est une autre façon de voir la réalité. Là. Tu scrolles sur TikTok, puis même si c'est un algorithme très fort qui te donne à voir ce que toi t'as envie de voir, c'est quand même fascinant comme fenêtre sur le monde. En tout cas, d'un point de vue de documentariste, là. Si tu te sors un peu C'est ça, vois toutes sortes de mœurs, puis de gens dans leur quotidien faire des trucs hyper dramatique ou hyper weird. Il y a ce matériel-là, moi, je trouve qui est intéressant à exploiter.
Oui, puis je trouve que, justement, La vie heureuse, Note sur la mémoire et l'oubli aussi, ils ont quelque chose de très Internet, là. Je vais le nommer comme ça, mais justement, on les visionne, puis ça, ça aurait pas pu être fait, on dirait, il y a 10 ans, ces films-là, parce que t'es pas rendu dans ce flot constant de médias, on s'en rend pas compte, mais c'est, dans les dernières années, ça s'est accumulé, puis on est bombardé d'images, puis étrangement, on s'y retrouve quand on écoute Noter la mémoire et l'oubli, on est comme, tchouk, tchouk, ça va super vite, les images changent et tout, puis je serais curieux de savoir si un public plus âgé trouve que le rythme est comme trop rapide, vraiment. Alors que nous, on a vraiment l'habitude.
Comme mes parents, ça leur a pris plusieurs écoutes du film pour vraiment comprendre. Mais même moi, on dirait que je trouve qu'il va trop vite des fois. Là, fait que, mais je pense que ça fait partie aussi de la proposition du film, justement, que ça soit un peu dans... que ça reflète notre mode de consommation aussi, ouais. de toute cette documentation-là un peu éphémère, puis instantané. Mais clairement, le taux de réception des images... puis tu sais, il y aurait... il y a quelque chose de très actuel, le film, parce que je pense que le film parle justement du fait que tous ces réseaux sociaux puis ces outils à notre disposition font en sorte que plus ça va, plus on s'archive partout, mm-hmm. par tous les médiums. En même temps, je repense à mes parents qui nous filmaient, mettons, dans... mon enfance complète est filmée, puis c'est juste des tapes qui restent dans un sous-sol. Puis t'es comme, pourquoi on fait ça, tu sais? Est-ce que c'est pour les revisionner? Peut-être, mais en même temps, ça reste, tu sais, dans un placard au fond. Fait que c'est un peu ça, le questionnement principal du film. C'est comme, c'est pour pas oublier ces moments-là, tu sais.
C'est intéressant, ça me pousse à vous poser une question un peu. Est-ce que, justement, le fait de faire du cinéma, c'est une manière de ne pas se faire oublier un peu pour
moi, je pense que oui, là, c'est sûr. Là, ça, on est des êtres éphémères qui vont juste passer, puis on s'accroche comme on peut.
Clairement, je pense que... ouais, c'est comme une grande question, mais clairement, c'est... Puis je pense que même d'un point de vue et individuel et collectif, ça marque aussi comme certains états d'esprit. Individuellement, tu peux voir le fil de ta vie, dans quels états d'esprit tu étais quand tu as fait tel film, tel court-métrage. Puis collectivement, c'est aussi, ça marque notre histoire. Là. Mm-hmm. Tu regardes des films de l'ONF des années 60, c'est tellement un esprit inspirant et différent de ce qu'on fait en ce moment. Puis en même temps, tu vois le lien. Puis ouais, fait que oui, c'est pour pas s'oublier, clairement. Ouais.
Puis tu fais, j'aime beaucoup, beaucoup la finale. Là. Je la trouve super touchante. Puis je vois qu'il y avait beaucoup de photos dedans. Est-ce que tu fais de la photo? Est-ce que c'est quelque chose?
Pas vraiment. Je fais pas vraiment de la photo, moi, personnellement. Mais on dirait que ça, j'aimerais full ça en faire. Comme tantôt, je disais, je pourrais changer de médium peut-être.
Ouais.
Mais j'aime beaucoup en inclure dans mes projets.
OK, cool.
Ouais. Toi, tu fais-tu la photo?
Oui, j'en fais. Puis, mais j'en inclus pas dans mes films.
C'est un passe-temps.
Mais en fait, non, mais c'est juste que on dirait qu'il y a un rapport différent. Pour moi, c'est un médium. Je posais pas la question pour en parler. Là.
Non, mais je trouve ça intéressant.
Ben, en fait, c'est juste. Il y a des moments. En fait, il y a encore plus le feeling de saisir un moment. Puis je pense jamais à filmer mes moments personnels. J'ai photographié tout le temps. Puis,
c'est intéressant. Ouais.
C'est un, on dirait que c'est comme. Il y a deux mondes différents. Mais c'est finalement la même chose.
Ben oui, mais en même temps, c'est vrai que la posture de filmer, c'est comme si ça te sort aussi de l'instant présent.
Ouais. Oui, c'est du travail.
Alors que,
c'est plus long à faire.
Ben, comme la photographie aussi, t'es témoin de quelque chose, tu te mets en dehors d'une scène. Puis...
Ouais.
Ouais, mais c'est ça. Fait, t'sais, moi, c'est drôle, à l'université, je m'étais dit, je vais m'acheter une petite caméra comme mes parents faisaient. Puis genre, je vais filmer mon appart au quotidien, mes colocs, la vie genre un peu ordinaire de tout ça. Puis au final, je l'ai faite le temps d'un été, puis je trouve ça tellement précieux, ces tapes-là, mais ça demande un effort qu'on fait plus, tu sais. C'est ça, je pense que notre rapport à la captation est peut-être plus dans des blagues ou dans des...
Mais c'est fou parce que des fois, on dirait que je regarde des films d'archives justement qui ont été filmés avec VHS, sur des VHS ou des petites caméras à l'époque, puis je suis comme « Ah, j'aimerais ça qu'on filme plein de moments entre amis comme ça avec ma petite caméra pour garder cet archivage-là et tout », mais j'ai un cellulaire dans ma poche, puis je fais rien avec. Là.
Ah, c'est
je
ça.
Capte absolument rien, puis tu sais, on dirait que le médium, il est là, on peut l'utiliser à 100%, puis il y a des gens qui le font aussi, mais on dirait que c'est pas le même rapport, puis je suis pas capable de l'expliquer nécessairement.
Mmh. Ouais, mais tu sais, l'outil en est pour beaucoup, là. Je pense que le fait que ce soit un cellulaire, c'est un outil de travail. C'est quelque chose qui est comme... C'est pas une caméra spécifiquement pour filmer ta famille.
C'est moins précieux.
Ou ta caméra argentique que tu prends en voyage quand tu veux faire des belles photos, tu sais. Mmh. Je sais pas. Écoute, je suis comme...
On est dedans, fait qu'on essaie d'analyser quelque chose qu'on est en train de vivre.
Fais-tu bien du people-watching dans la vie? Parce que je trouve qu'il y a un point de vue people-watching dans ton film. Tu sais, il y a des moments comme la femme là, qui est dans l'épicerie là, avec ses fruits. Puis,
oui.
Est-ce que t'es... c'est comme... Ça t'arrive-tu des fois de juste genre observer? Portes-tu comme une attention particulière au
constamment?
Genre, constamment.
Oui, oui, constamment. C'est ça ma source d'inspiration. Mm. Ou genre l'altérité, là, tu sais, j'aime ça rencontrer. J'adore faire des nouvelles rencontres, puis surtout des gens qui sont différents de moi, qui me touchent d'une manière profonde, puis que j'ai envie de soit faire un portrait, soit essayer de les comprendre, soit un peu partager des instants de leur vie que jamais j'aurais cette vie-là, tu sais. Mettons dans la vie heureuse, je prends un exemple comme ça, il y a une scène dans un camp naturiste où justement ça rejoint la nudité,
rejoint un peu la nudité,
puis j'avais envie de filmer ça comme un peu une espèce de petit Éden là, de lieu où les gens sont complètement dans le laisser-aller, puis ils sont bien avec leur corps, puis il y a tellement de corps différents, des vieux, des jeunes, des gros, des minces, des, tu sais, fait que moi, pour moi, il y avait... Mais je suis pas naturiste, puis j'ai pas une envie particulière de devenir naturiste. C'est plus comme d'aller à la rencontre de comment, pour ces gens-là, c'est libérateur, puis ils s'expriment là-dedans. Puis, parlant de nudité, ben lors du tournage, c'est une petite anecdote quand même cocasse, j'étais extrêmement mal à l'aise, en fait, d'aller filmer des gens nus en étant habillée.
Ouais.
Je trouvais que ça créait une hiérarchie dans le tournage où on n'était pas d'égal à égal. J'avais dit d'emblée à mon équipe technique, on était trois là, le DOP, le preneur de son, moi, que s'il était down, on allait y aller
nu.
Complètement nu.
Wow.
Ça a été tellement une expérience incroyable, très drôle les cinq premières minutes. Un peu drôle parce que c'est cocasse, mais après cinq minutes, t'es comme... Hey, quand tout le monde est nu, là, ça devient tellement banal. Mm. Puis il y a quelque chose de très libérateur, moi, je trouve, de... Ben, ça te décomplexe complètement. Mm. Puis c'est ça, de voir d'autres types de corps, de comme... Ah, comment je vais vieillir, tu sais, un corps d'une femme vieillissante. Je sais pas, il y a quelque chose, moi, que j'ai trouvé humainement vraiment... fort dans ce processus-là. Je sais pas si toi, dans ton film, justement, de côtoyer plein de corps, de différents types de corps que, tu sais, toi, genre, on a juste notre référence à nous, puis...
Ben, notre référence à nous, puis l'hypersexualité des médias ou la pornographie ou tout ça, où c'est comme un type de corps qui fait la cote, puis tous les autres qui sont pas là. Fait que, oui, puis moi quand je faisais l'appel de casting, puis ça, c'était comme des modèles nus, puis du monde qui était des figurants ou... Parce que tu sais, tu l'as sûrement déjà vu dans ton travail, mais quand t'appelles des figurants, souvent, il y a comme les mêmes faces qui reviennent. Il y a du monde qui reviennent, qui veulent tout le temps être dans des projets. Puis il y avait comme deux personnes que j'avais tourné, un clip avec, l'autre un autre court-métrage, puis il était comme, il se pointait pour être nu. Je trouve ça malade. Puis je sais pas, c'est du monde qui avait vraiment envie de le faire. Puis je pense que pour eux, il y avait un processus de, mais un peu peut-être que ce que t'as vécu. Puis il y en avait qui étaient super à l'aise. Puis moi, quand juste de les voir, c'était comme... On dirait que j'ai... Parce qu'on voit pas beaucoup de nudité dans notre vie.
Non, vraiment pas.
T'sais, on n'est pas en contact avec c'est quoi un corps moyen. Là, j'ai vu toutes sortes. Puis c'était le critère, c'est que je voulais que ça soit de toutes les... Beaucoup de diversité, tu sais, à tous les sens dans la représentation. Puis parce que c'est beau, c'est intéressant, c'est la vraie vie. Puis là, qu'on voyait les gens. Puis première scène qu'on tourne, on le fait... Puis il faisait super froid là aussi, là. C'était comme fin septembre. Fait que, tu sais, tout le monde, dès qu'on coupait, il s'en remettait des couvertes pis tout.
Ouais.
Mais rendu au deuxième jour, là, le monde, je l'ai vu, là, qui était plus à l'aise, que c'était comme plus comme « Ah, oh, on l'a fait, là? OK, cool! » Il se mettait...
Ouais, c'est ça. C'était, d'un coup, que tout le monde est dans le bateau, puis il y a comme une, ouais, vraiment un tabou. Puis c'est drôle parce que les gens naturistes me disaient que eux, ils militaient, en fait, pour que ça soit plus censuré, en fait, la nudité, que ça devienne plus... ouais, qu'on soit plus à l'aise avec ça comme société. Parce que je pense que clairement, on est toutes comme un peu gênées par rapport à ça. Puis la pudeur dont ton film parle aussi, je pense que c'est même notre rapport comme société avec la nudité en général. Tu sais, c'est soit, comme tu dis, full sexuel ou... Mais full sexuel.
Mais exploité.
Oui, oui, c'est ça. Dans la porno, tout ça, ou c'est caché, puis c'est... Puis c'est correct aussi, tu sais, genre la pudeur, c'est correct aussi, là.
Non, c'est ça,
je pense pas qu'on veut proclamer de...
Ouais.
C'est ça.
Mais c'est que c'est tellement une partie de notre humanité, notre corps, notre nudité, tout ça, c'est qui est caché, puis qui est pas partagé, puis qui est... Fait que c'est quand même intéressant à quel point une grosse partie de notre physionomie est juste tabou, puis caché, puis dans peu importe comment évoluer qu'on est comme société, c'est encore comme ça, puis...
Ouais.
C'est intéressant. Puis je trouve ça super le fun que tu as eu cette expérience-là. Parce que ça.
Ouais.
Ça, ouais. Ça,
c'est dans les bonnes anecdotes
ben
de
oui,
tournage.
C'est ça.
Ouais.
Le perchiste là, avec sa petite mixette qui était juste placée au bon endroit. Là, puis...
Bien caché.
C'est ça. Ouais, ouais.
En terminant, j'ai le goût de vous demander qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent un peu de vos films à travers tout ça, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui.
Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? C'est une bonne question, je sais pas. Peut-être que, moi, depuis le début, c'est un film que j'étais toujours conscient. J'étais un homme blanc. Je fais un film avec la nudité. Il y a une comédienne principale. Moi, depuis le début, c'était pas. La dernière fois que je voulais, c'était que les gens pensent que je mettais en scène un fantasme.
Ouais.
C'est le dernier truc. Puis surtout les comédiens, puis tout le monde. Puis que l'histoire soit racontée, puis que la sexualité fasse partie de l'histoire, puis soit pas comme le hook pour aller voir le film ou le. Je pense que les gens qui le voient, voient vraiment au-delà de juste l'aspect peau là, de la nudité, puis qu'ils voient que c'est une histoire à propos de à la sexualité et à la nudité. Fait que moi, c'est ça que je veux que les gens retiennent, qu'ils voient que c'est une histoire de la sexualité.
Mm-hmm. Mais clairement, ça évoque tellement de questions par rapport à ces thèmes-là, t'sais, au-delà même de l'histoire, du récit, t'sais, du film. Là. Moi, pour ma part, j'ai... Tu sais, il y a une part de moi qui a vraiment envie que ce soit comme un petit hommage au texte de base de Raphaël Germain qui a beaucoup de mérite, là, puis qui est à la genèse de cette œuvre-là. Puis après ça, on dirait que ce serait peut-être plus comme juste une liberté créatrice, tu sais, de se dire comme les films peuvent explorer différentes formes, différents genres, mêler tout ça, mêler l'humour, mêler les réflexions un peu plus profondes ou essayer de le faire. Fait que, tu sais, pour moi, ce film-là représente un peu cet instinct-là. Fait que c'est peut-être ça que j'ai envie de que les gens retiennent.
Ben oui, puis on encourage les gens à aller lire l'essai de Raphaël Germain, qui est très intéressant aussi. Merci d'avoir été à Regard le balado.
Merci, Nikki.
Merci, c'était pas si mal pour une heure de sommeil dans le corps.
Tu t'en es très bien sorti.
Ouais.
Merci, je vous souhaite une bonne suite de festival.
Merci.
Merci.
Regard le balado a été enregistré au Centre d'expérimentation musicale pendant la 27e édition du Festival Regard, le festival international du court-métrage au Saguenay qui s'est déroulé du 22 au 26 mars 2023. Les épisodes ont été produits et réalisés par la généreuse équipe de Balado Boréal et n'auraient pu exister sans le soutien du Bureau du cinéma de Saguenay qu'on remercie. Merci aussi à Charles-Maxime Lemay à la prise de son et au montage. J'envoie également toute ma gratitude aux cinéastes qui ont accepté de venir partager ces moments avec moi. Entendre toutes vos histoires a été un réel plaisir. Si vous avez apprécié ce balado, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à aller suivre la page du festival sur les médias sociaux pour ne rien manquer et être au courant de toutes nos activités. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt.
Une production Balado Boréal.